Bonjour à tous, merci d'être présent pour cette dernière rencontre donc, en compagnie de Jon Kalman Stefansson et d'Éric Bourri. Jon Kalman qui est arrivé donc, de Reykjavik la semaine dernière pour ce festival Lettres du Monde et dont trois romans seulement ont été traduits en français par Éric Bourri, grâce à qui nous allons pouvoir converser presque comme en islandais. Trois romans, donc Entre ciel et terre, La tristesse des anges et Le cœur de l'homme, qui sont parus chez Gallimard entre 2010 et 2013, je crois, et qui sont également disponibles en poche aujourd'hui. C'est donc une trilogie qui a pour cadre l'Islande de la fin du 19e siècle. Et je vous propose de commencer par entendre un extrait de cette œuvre.
Nous allons vous lire le tout début de la trilogie en islandais et en français. Les trois premières pages, ou presque.
Þetta er á þeim árum þegar við vorum örugglega enn á lífi. Marsmánuður og veröldin hvít af snjó, þó ekki alhvít, hér verður aldrei alhvít. Sama hvernig snjónum kyngir niður, jafnvel þótt himinn og haf frjósi saman og kuldinn á í langleiðinni inn á hjartanu, þar sem draumarnir búa, þá sigrar hvíti liturinn aldrei. Klettabeltin í fjöllunum rífa hann jafnóðum af sér og skaga kolsvört út í hvítan heim, þau skaga svörti við stráknum og borði, þar sem þeir fjarlægast plássið upp af okkur á endi miðja heimsins. Og miðja heimsins hláleg og stolt. Þeir ganga greitt ungir fætur, eldur sem brennur, en þeir eru líka í kapplaupi við myrkrið, sem kannski við hæfi því líf mannsins stöðugt kapplaup við myrkur veraldar, svikin, grimdina, hugleysið, kapplaup sem oft verðist svo vonlaust, en við hlaupum samt og á meðan lifir vonin. Bárður og strákurinn ætla þú bara að ganga myrkrið af sér eða rökkur loftsins, Verða undan því að búðunum, verðbúðunum, gangastundum samsíða sem langbest, því spor sem liggja saman, vittum samkennt og þá lífið ekki eins einmanalegt.
C'était en ces années où probablement nous étions encore vivants. Mois de mars. Un monde blanc de neige. Toutefois pas entièrement. Ici, la blancheur n'est jamais absolue. Peu importe combien les flocons se déversent, que le froid et le gel collent le ciel à la mer et que le frimas s'infiltre au plus profond du cœur où les rêves élisent domicile. Jamais le blanc ne remporte la victoire. Les ceintures rocheuses des montagnes s'en délestent aussitôt et affleurent, noires comme le charbon à la surface de cet univers immaculé. Elles s'avancent, saillantes et sombres, au-dessus de la tête de Bárður et du gamin au moment où ceux-ci s'éloignent du village de pêcheurs. Notre commencement et notre fin, le centre de ce monde. Et ce centre du monde est dérisoire et fier. Ils avancent à vive allure, juvéniles jambes, feu qui flambe, livrant également contre les ténèbres une course tout à fait bienvenue, puisque l'existence humaine se résume à une course contre la noirceur du monde, les traîtrises, la cruauté, la lâcheté, une course qui paraît si souvent tellement désespérée, mais que nous livrons tout de même tant que l'espoir subsiste. C'est pourtant d'une simple marche que Bárður et le gamin ont l'intention de se délester des ténèbres ou de l'obscurité du ciel pour arriver avant elle au baraquement des pêcheurs. Parfois, ils marchent de front, et c'est beaucoup mieux, parce que des traces de pas posées les unes à côté des autres sont preuve de connivence, et qu'alors, la vie n'est pas aussi solitaire. Pourtant, la route se résume bien souvent tout juste à un étroit sentier qui ondule comme un serpent gelé dans la neige. Et alors, le gamin doit fixer son regard sur l'arrière des chaussures de Bárður, le havresac en cuir qu'il porte sur son dos, sa touffe de cheveux noirs et sa tête solidement posée sur ses larges épaules. Par moments, il traverse des rives rocheuses, s'avance à petits pas sur des routes suspendues tout au bord des falaises, mais le pire est l'Ófæra, l'infranchissable. Une corde fixée à la roche, la pente glissante et friable de la montagne en surplomb, la paroi fuyante au-dessous d'eux et la mer verdâtre qui te happe et t'aspire. une chute de 30 mètres. La pique de la montagne s'élève à plus de 600 mètres et son sommet se perd dans les nuages. D'un côté la mer et de l'autre, des montagnes vertigineuses comme le ciel. Voilà toute notre histoire. Les autorités et les marchands règlent peut-être nos misérables jours, mais ce sont les montagnes et la mer qui règnent sur nos vies. Elles sont notre destin. Tout du moins, c'est ainsi que nous pensons parfois. Et c'est évidemment aussi ce que tu ressentirais si tu t'étais réveillé endormi des dizaines d'années durant au pied de ces mêmes montagnes, si ta poitrine s'était élevée et affaissée au rythme du souffle de la mer sur nos barques fragiles. Il est peu de choses aussi belles que la mer par une magnifique journée ou par une nuit limpide, quand elle rêve et que le clair de lune est la somme de ses rêves. Pourtant, la mer n'a nulle beauté et nous la haïssons plus que tout quand elle élève ses vagues à des dizaines de mètres au-dessus de la barque, au moment où la déferlante la submerge et nous noie comme de misérables chiots. Peu importe à quel point nous agitons nos bras, implorons Dieu et Jésus-Christ, elle nous noie comme de misérables chiots. Et là, tous sont égaux, les crapules et les justes, les colosses et les mauviettes, les bienheureux et les affligés. On entend quelques cris, quelques mains s'agitent désespérément, puis c'est comme si nous n'avions jamais existé. Le corps sans vie coule, le sang se refroidit à l'intérieur, les souvenirs s'effacent, des poissons viennent se coller à ses lèvres qui, embrassées hier, prononçaient les paroles essentielles. Ils effleurent ses épaules qui portaient le Benjamin et les yeux ne contemplent plus rien posé au fond de l'eau. La mer est d'un bleu froid et jamais calme, un monstre gigantesque qui inspire, nous porte la plupart du temps, mais parfois se dérobe et alors nous sombrons. L'histoire de l'homme n'est pas si complexe que ça. Jón Kalman lit un peu plus vite que moi, c'est-à-dire aussi que l'islandais est un peu plus concis que le français parfois, et puis parfois c'est le contraire, mais bon, on avait quelques secondes de décalage.
C'était la question que j'allais vous poser, merci en tout cas, c'était très émouvant, très beau. Jón Kalman, qu'est-ce que cela vous fait de vous entendre dans une langue que vous ne comprenez pas ? Ou d'entendre votre œuvre plutôt ?
Tilfinning veldur það hjá þér að heyra sjálfan þig í tungumál sem þú skilur ekki.
Mér finnst það mjög skemmtileg tilfinning.
C'est un sentiment très agréable.
Þegar þá fæ ég á tilfinninguna annars vegar að ég skil ekki sjálfan mig.
Parce que j'ai l'impression d'une part que je ne me comprends pas moi-même.
Og að ég sé jafnvel bara nokkuð greindur.
Et j'ai même l'impression d'être assez intelligent.
En svo þegar ég lít á íslenskuna þá sé ég að það mistök eða misskilningur.
Mais en lisant l'islandais, je vois bien que je me trompe tout à fait.
En Erik sagði mér að það þarf fleiri orð á frönsku heldur en á íslensku.
Mais Erik m'a dit que souvent il fallait plus de mots en français qu'en islandais.
Og ég tek eftir að hér á Frakklandi þá talar fólk meira en á Íslandi.
Et j'ai remarqué que ici en France les gens parlent en général plus qu'en Islande.
Og þeir tala líka meira með höndunum en heim á Íslandi.
Et les Français parlent aussi plus avec les mains que les Islandais.
Ég veit ekki hvort það vegna þess að þið hafi meira að segja við heiminn heldur en við.
Peut-être que les Français ont plus de choses à dire au monde que nous, les Islandais.
Eða hvort að við, það sem við segjum, skiptir meira máli en við þurfum bara færi orð.
Ou peut-être parce que ce que nous, les Islandais, nous disons est plus important et qu'on a besoin de moins de mots. Je ne sais pas.
En svo getur líka verið að vegna þess að það kaldar á Íslandi heldur en hér í Frakklandi.
Mais comme il fait plus froid en Islande qu'ici en France,
að þá flýtum okkur að segja það sem við þurfum að segja og svo drífum okkur heim í hlýjuna.
On a peut-être tendance en Islande à se dépêcher de dire les choses essentielles qu'on a à dire avant de rentrer chez soi, se mettre au chaud.
Það með öðrum orðum, náttúran og veðurfarið skapar allstaðar tungumálið og viðhorfið.
En d'autres termes, la nature et le climat créent partout la culture et la vision du monde.
Alors justement, pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, Yann Kalman, on se pose la question du peu que nous connaissons de l'Islande, de par le fait que cette terre est une île, de par sa situation insulaire, du fait aussi que c'est une terre entre deux, entre l'Amérique et l'Europe. Et je crois même à la jonction de deux plaques tectoniques, ce qui provoque des phénomènes naturels violents. Est-ce que cette situation géographique particulière influe sur non seulement la nature, hein, l'homme, mais par conséquent sur la langue et peut-être la littérature? Et quand je dis la littérature, je pense évidemment à votre œuvre qui est très particulière. Et je continue un tout petit peu à développer parce que j'ai dit particulière, c'est-à-dire à la fois très ancrée en Islande, en l'occurrence l'Islande de la fin du 19e siècle, hein, à la fois très universelle dans son propos et dans sa quête. D'une part, et par ailleurs, du point de vue du style, associant, mêlant des genres assez différents du point de vue du style. Très réaliste par moments, très onirique hein, à d'autres moments.
Já við, sko, Ísland liggur á hérna sprungu sem að fer upp allt Atlantshafið og gegnum Ísland.
L'Islande, en fait, repose sur une faille qui traverse tout l'océan Atlantique et qui passe donc par l'Islande.
Já, sko, Ísland til vegna þess að þessi sprunga ég meina, Ísland kom upp úr þessari sprungu.
Si l'Islande existe, en fait, c'est à cause de l'existence de cette faille, puisque c'est l'émergence de cette faille.
Og sem sagt, við lifum, bæði lifum við fjarri heiminum og leið á stað sem stöðugt að endurnýja sig, stöðugt að verða til.
Donc, nous vivons, nous les Islandais, nous vivons à la fois loin du monde, mais également dans un endroit où le monde lui-même est constamment en train de se recréer, puisque l'Islande s'agrandit.
Og það bara til dæmis núna í þessum töluðum orðum að þá eldgosum búin að vera í gangi í 2-3 mánuði.
Et au moment même où nous parlons, une éruption se déroule en Islande depuis 3 mois, par exemple.
Og upp kemur nýtt efni, nýtt land.
Et cette éruption-là apporte donc de la nouvelle matière, en fait, de la nouvelle matière de la nouvelle terre.
Og ég held að maður lifir annars vegar á eyju og hins vegar á eyju sem stöðugt að verða til.
Et je pense que quand on vit sur une île, d'une part, et d'autre part sur une île qui est constamment en transformation, constamment en devenir ou même en naissance, en fait, en train de naître.
Að þá hlýtum maður að hugsa öðruvísi en til dæmis hér í Frakklandi þar sem að landið pouvoir til mjög lengi og breytist ekkert.
Donc je pense que dans de telles conditions, on pense peut-être différemment que quand on vit dans un pays comme par exemple la France qui existe depuis longtemps et qui a des frontières géologiques fixes.
Ég veit sko ekki hvort að þetta hafi haft einhvern þessi staðreynd hefur haft einhver afgerandi áhrif á mig.
Alors maintenant, je ne suis pas capable de dire si cette situation particulière à l'Islande a eu vraiment des influences sur moi ou sur mon œuvre.
En stundum finnst mér að það sem ég að skrifa, að það komi líka úr einhvers konar óskiljanlegu djúpi.
Mais je dois avouer que j'ai parfois l'impression que ce que j'écris est quelque chose qui est sorti de profondeur incompréhensible. D'un abîme incompréhensible. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout ce qui arrive dans l'écriture.
En það kemur til þess að alveg eins og eldgósið til að búa til nýtt líf og til að stækka heiminn.
Mais comme les éruptions, ce qui arrive dans l'écriture arrive pour créer une nouvelle matière et engendrer de nouvelles vies.
Og sko náttúrun á Íslandi og þegar maður talar um náttúru á Íslandi þá talar maður þá bæði sem sagt náttúran og veðurfarið, það einu reitt og því sama.
Maintenant, quand on parle de la nature en Islande, en fait, on ne parle pas que de la nature. On parle évidemment de la nature elle-même, mais aussi et peut-être surtout du climat, de la conjugaison de la nature et du climat. Parce que nature et climat, surtout en Islande, sont totalement indissociables.
Og maður kannski horfar á fjall og það er sólskin á því og það er það bil það fallegast að og viðkvæmasta sem maður getur hugsa sér.
Par exemple, vous regardez une montagne islandaise en plein soleil et c'est à la fois la chose la plus belle et la plus fragile que vous puissiez voir.
Einni myndu síðar það orðið dimmt og ógnandi og virðist hata mann.
Une minute plus tard, le temps s'est couvert. La montagne devient sombre, menaçante, et elle devient quelque chose qui vous haït.
Og fyrir mér að þá það kannski þessna sem að ég skrifa svona stíl, því fyrir mér þá tilveran akkurat þannig.
Et pour moi, c'est peut-être pour cette raison que j'ai ce qu'on pourrait appeler mon style. C'est que la vie elle-même, elle est exactement comme ça, comme cette montagne qu'on regarde, qui est magnifique et qui, une minute plus tard, va être la haine pure à votre égard et va vous menacer grandement.
Það að segja, raunsæi og hið óskiljanlega nákvæmlega sama í mínum augum.
À mes yeux, le réalisme et l'incompréhensible, les choses incompréhensibles, sont exactement une seule et même chose.
Moi, j'ai pensé en vous lisant parfois à ce qu'on a appelé le réalisme magique, hein, qui donc caractérise une certaine littérature sud-américaine et caribéenne. On pense à Gabriel Garcia Marquez ou à René de Peste, qui est peut-être aussi un endroit, qui sont des écrivains qui sont d'un endroit du monde où le rapport à la nature est comme chez vous, empreint d'un certain animisme peut-être.
Sko, töfrarreynsa náttúrulega mjög gamalt form.
Évidemment, le réalisme magique, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps, en réalité.
Bara sem dæmi að sumar af Íslendingasögunum eru bara, sérstaklega erbyggja, eru bara hreinræktað töfrarreynsa.
Par exemple, certaines sagas islandaises écrites au XIIIe siècle, on peut, comme la saga des gens de la saga des Erbikjar, c'est une saga islandaise du XIIIe siècle, on peut la classer dans du pur réalisme magique.
Og ég held að það sé rétt hjá þeir sem hún segir að það er út af þessu samspili náttúrunnar og mannsins sem að býr til þetta rými.
Et je pense que tu as parfaitement raison quand tu définis ça comme du réalisme magique, parce que c'est justement ce jeu permanent ou cette conjugaison permanente de l'homme et de la nature qui crée cet espace, cet entre-deux en fait.
Og maður ólst upp við allskin sögur af veist, draugum og, og slíku.
En Islande, nous sommes tous élevés en entendant des histoires de toutes sortes sur les fantômes,
já,
les elfes, les gens cachés.
Að í sem sagt öllum steinum að þá býr einhver, að búa einhverja verur.
Dans les pierres, sous les pierres, à côté des pierres, dans toutes les pierres, vivent des êtres.
Og einhvern veginn þá sko þegar maður heyrir þetta sem barn og elst upp við þetta, þá einhvern veginn verður þetta bara svona hluti af veruleikunum.
Quand on entend, ces, quand on est bercé par ces histoires, enfant, évidemment que ces êtres-là, dont il est constamment question dans les histoires, hein, ils font partie de la réalité, pour nous.
Og í öllum gömlum húsum á Íslandi, að þá er, það er talið vera reynt. Í öllum gömlum húsum á Íslandi, það er sinns, talið vera draugagangur í þeim.
Já, já. Et dans toutes les et toutes les vieilles maisons en Islande sont considérées comme étant hantées.
En gömul hús á Íslandi, það eru hús sem eru svona 80 ára gömul og eldri.
Quand on parle des vieilles maisons en Islande, c'est des maisons qui ont 80 ans ou un peu plus, mais pas plus que ça.
En þegar maður vex upp og þá þetta kannski fer maður að velta fyrir sér að þetta kannski ekki alveg þetta ekki raunsæi.
Maintenant, en grandissant, on se dit quand même, tiens, mais toutes ces histoires-là, c'est peut-être pas très réaliste, ces fantômes, ces elfes et tout ça.
Að þá mjög erfitt að losna við þetta úr blóðinu.
Mais même, si on se dit toutes ces histoires, c'est peut-être pas très réaliste, c'est quand même très très difficile de leur tourner complètement le dos parce qu'on les a dans le sang.
Og ef þú ert með eitthvað í blóðinu og þú ert rithöfundur, að þá leitar það í orðin.
Et quand on a quelque chose dans le sang et qu'on est écrivain, eh bien, ça se retrouve évidemment dans les mots qu'on écrit.
En ég vona innilega að til séu draugar.
Personnellement, j'espère sincèrement que les fantômes existent.
Af því að ef það eru til draugar, að þá ertu líf eftir dauðan.
Parce que s'il existe des fantômes, ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Et à Jón Kalman, ég verð bara útskýra smá draugar. Je demande à Jón Kalman la permission d'exprimer d'expliquer un peu quelque chose sur les fantômes islandais. C'est pas les fantômes ectoplasmiques. Hein. Les fantômes en Islande, en fait, c'est le mot draugur. Ça veut plus dire un revenant qu'un fantôme. Alors on traduit souvent par fantôme, par commodité. Le fantôme qui est hérité justement des sagas du XIIIe siècle est un personnage très important qui peut manger avec vous, qui peut vous serrer la main et qui éventuellement va essayer de vous zigouiller si vous lui avez fait du mal. Parce que s'il est fantôme, c'est justement qu'il n'est pas en paix avec les morts. Mais donc, il n'est pas fantôme, il est vraiment revenant de chair et d'os, avec une volonté souvent agressive.
Ég segi bara draugurinn stund, já, oft bara aggressív.
Já, 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 hann er svona, sko stundum finnst manni draugar á Íslandi vera dánir leikarar, þar að segja þeir eru með athyglisíki.
On a un peu l'impression en Islande que les fantômes, donc ces revenants, sont un peu comme des acteurs décédés, des acteurs défunts, qui continuent d'avoir besoin de l'intérêt du public. Des spectateurs.
Le vôtre, donc.
Donc le vôtre.
pour revenir sur cette question des genres et de l'écriture, hein, je disais tout à l'heure que trois romans seulement de vous avaient été traduits donc, récemment en français. Je sais que cette trilogie est précédée d'une autre trilogie romanesque. Qui n'a pas été traduite. Je sais que vous êtes encore actuellement sur un travail romanesque, donc en cours. Hein. Mais vous avez commencé par écrire de la poésie. Ce qui est sensible dans votre œuvre romanesque. Pourquoi ce choix de délaisser, puisque je crois que vous l'avez délaissé en tant que genre la poésie, pour passer au roman.
Það hlutur sem að ég með samvinskupið yfir alltaf.
C'est une chose dont j'ai ou qui m'inspire toujours une forme de mauvaise conscience.
Ég vildi svo gjarnan geta ort ljóð.
J'aimerais je serais vraiment très heureux de pouvoir écrire des poèmes.
Sko það mjög ég mjög erfitt með að skilja það af hverju ljóð ekki meira lesin í heiminum í dag.
J'ai beaucoup de difficultés à comprendre pour quelle raison les poèmes ou pour quelle raison les gens dans le monde d'aujourd'hui ne lisent pas plus de poésie.
Sko við kvörtum stöðugt og sífellt yfir hversu lítinn tíma við höfum.
On passe notre temps à se plaindre de notre manque de temps.
Og svo förum við upp í rúm með skáldsögu upp á 700 síður.
Et puis on se met au lit avec un roman qui fait 700 pages.
Sem tekur þig kannski 10 daga að lesa.
Et qu'on va peut-être lire en 10 jours.
Í staðan fyrir að fara með ljóðabók og lesa ljóð sem tekur þig 10 sekúndur að lesa.
Alors qu'on pourrait très bien se mettre au lit avec un recueil de poésie et lire un poème qui nous prend 10 secondes.
Þannig að ljóðið raunum við það form sem ætti að vera miklu vinsælla en glæpasögur.
Donc pour moi le poème est la forme absolument idéale et il devrait être par exemple beaucoup plus à la mode que les romans policiers.
Og fólk ætti að hreinlega slást á götunum yfir því hvor betri skáld til dæmis Rimbaud eða Baudelaire eða Baudelaire.
Et en fait les gens devraient se battre dans la rue pour savoir qui de Rimbaud ou de Baudelaire est le meilleur poète.
Þannig að þegar þið farið hérðan út þá farið þið sem sagt í bókabúðuna.
Þar þú?
Þau?
Quand vous sortirez d'ici et que vous irez à la librairie,
gangið fram hjá öllum skáldsögunum eins og það sé ekki til.
Passez devant les romans comme s'ils n'existaient pas.
Og kaupi ljóðabók.
Et achetez un livre, un recueil de poésie.
Og látið ljóðin breyta líf ykkar.
Et laissez la poésie changer votre vie.
Og síðan farið á Facebook og segið ég les ljóð.
Ensuite vous allez sur Facebook et puis vous mettez sur votre statut je lis des poèmes.
Og smá saman verður heimurinn betri.
Peu à peu le monde sera meilleur.
En ég hins vegar sneri mér að skrifa skáldsögur vegna þess að mér fannst ég ekki koma allir fram í ljóðunum.
Si je me suis mis à écrire des romans, c'est parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir exprimer tout ce que j'avais à dire en fait dans la poésie. D'une certaine manière, on pourrait dire que le roman m'a kidnappé.
Það með sko á bæði við formið og efnið, það alltaf formið sem velur skáldið og efnið sem velur skáldið en ekki öfugt.
Qu'il s'agisse de la forme ou du fond, en fait, c'est toujours la forme et le fond qui choisit l'écrivain, et ce n'est pas l'écrivain qui choisit sa forme et son fond, pour moi. En réalité, le poète ou l'écrivain n'a pas vraiment, à mon avis, une volonté indépendante ou une volonté propre. Finalement, il n'est qu'un outil.
En hins vegar nota ég meðvitað og ómeðvitað tækni ljóðsins til þess að skrifa skáldsögur.
En revanche, évidemment, je recours à des procédés poétiques de manière consciente ou inconsciente quand j'écris ma prose.
Og maður sér náttúrulega höfundað eins og Hertu Möller eða Saramago að stundum mjög óljós skil á milli skáldsögunar og ljóðsins.
Si on lit des auteurs comme Hertha Müller ou José Saramago, on voit que la limite ou les limites, les frontières entre la prose et la poésie sont plus que floues et perméables.
Þannig að þið mér líka kaupa bók eftir Hertu Müller leið og kaupið ljóðið.
Donc bon, vous pouvez aussi acheter un roman de Hertha Müller ou de Saramago.
Est-ce que vous savez, Jan Kalman, quand vous commencez Entre ciel et terre, où va vous mener l'écriture? Je veux dire par là, est-ce que... Je sais que, parce qu'on en a parlé un peu hier, que vous ne vous attendiez pas vous-même à écrire une trilogie, que vous avez commencé par penser à écrire une nouvelle, qui est donc au départ de cette trilogie. Est-ce que toute l'écriture de ces plus de 1000 pages s'est déroulée ainsi, ou est-ce qu'il y a un moment où vous avez organisé la suite
Óvart.
Óvart. Var það skipulegt?
Ég hef búin að skrifa 10 skáldsögur. Eða senda frá mér. 10 skáldsögur.
Jusqu'à présent, j'ai publié 10 romans. 10 romans.
Ég reyndi að skrifa 12 skáldsögur en ég henti tveimur í ruslið.
Et j'en ai écrit 12. Les deux premiers, je les ai jetés à la poubelle.
Það voru hræðilega vondar.
Ils étaient les romans extrêmement mauvais.
Ég til dæmis hafði ekkert í hyggju að skrifa hræðilega vondar skáldsögur, það bara urðu hræðilega vondar.
Je n'avais pas du tout l'intention d'écrire des très mauvais romans, mais c'était simplement qu'ils étaient très mauvais. Mais ce n'était pas mon intention, évidemment.
Þannig að maður virðist ekki geta tekið ákvörðun nokkuð skapaðan hlut sem höfundur.
Donc apparemment, quand on écrit, il semble bien qu'on n'est pas qu'on ne peut pas prendre la moindre décision dans le domaine de l'écriture, même si on écrit nous-mêmes. C'est clair? C'est-à-dire que la décision d'écrire un bon ou un mauvais roman, ce n'est pas du ressort de l'écrivain. Un écrivain ne va pas décider d'écrire un bon roman ou un mauvais roman.
Je n'ai jamais écrit ce que je voulais écrire.
Já, þar til núna.
Aldrei, já. Ekki, bara aldrei, já. Ekki ennþá.
Pour l'instant, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas écrit le roman que je voulais écrire.
Sko, ég legg af stað með einhverja hugmynd sem ég kannski búin að undirbúa í einhver tíma eða hugsa.
Je me mets en route avec une idée qui m'est venue à l'esprit, que je prépare ou que j'ai mûri pendant un certain temps.
En eiginlega leið og ég byrja að skrifa að þá fer allt saman að breytast.
Et dès le moment où je commence à prendre mon crayon pour écrire, là les choses changent.
Og ég raunar mjög glaður og hamingjusamur að það sé þannig.
Je suis très heureux que ça se passe comme ça en fait, que ce processus de création suive cette règle-là, qui n'est pas une règle donc.
Og ég glaðastur þá daga þegar að eitthvað algjörlega óvænt sem ég sá ekki fyrir kemur.
Les jours où je suis le plus heureux, c'est lorsque des choses que je n'avais pas du tout prévues dans l'écriture arrivent.
Af því að þá einhvern veginn getur maður trúa því að skáldskapurinn stjórnir för, hið óvænta, það sem maður getur ekki séð fyrir.
Parce que là, quand ça se produit, on a l'impression, on peut même se persuader que la poésie ou l'écriture elle-même Je dis parfois c'est un peu difficile de traduire, parce qu'il faut traduire le plus proche possible et puis en même temps que ce soit compréhensible. Donc on a l'impression parfois que l'écriture elle-même se dirige elle-même. C'est clair ?
Oui. Já, þú mátt, og ég týpu.
Nú þetta búin að gleyma hvað þetta að segja.
Ég stundum er að eins og skálskapurinn ráði för sjálf, sko.
Já, já, ok, fín, takk fyrir. Sko, ef maður getur skipulega það sem maður að skrifa?
Si on peut tout prévoir ce qu'on va écrire, si on peut tout organiser de ce qu'on va écrire.
Ef maður getur séð allt það sem að mun skrifa, eða meira að minna, séða fyrir.
Si on peut donc voir, visionner, prévoir devant soi là tout ce qu'on va écrire.
Þá er það ekki skáldskapur.
Dans ce cas, c'est pas de l'écriture.
Stundum í sveitinni þá voru hænur aflifaðar þannig að hausinn var hogginn af þeim.
À la campagne. Il a vécu à la campagne. Il arrivait qu'on tue les poules en les en leur coupant le cou, en leur tranchant le cou.
Og hænur eru frekar vitlausar.
Les poules, c'est assez idiot. Hein.
Og þær bara áttu sig ekki á því að þær voru hauslausar.
Et elles ne se rendaient pas compte qu'elles n'avaient plus de tête.
Og þær hlupu í langan tíma, bara hlaðið og blóðið spýttist út allt.
Et elles continuaient à courir pendant un temps infini dans la grange et le sang se giclette partout.
Og svo allt í náttu þessi fjandinn, ég er dauð og löðust niður.
Et puis tout à coup, elle comprenait que, ah merde, je suis morte, et donc elle tombait.
Mér finnst stundu þegar ég að skrifa, þá líði mér eins og ég sé hauslis hæna.
Quand j'écris, j'ai parfois l'impression d'être une poule sans tête.
Og að skálskapurinn er blóðið sem að spýtist út allt.
Et que l'écriture, la poésie, c'est justement ce sang qui gicle de tous les côtés.
En svo þegar ég búin að skrifa 500 síður.
Puis quand j'ai écrit 500 pages.
Þá þarf ég að fara að lesa það allt saman yfir.
Là, je dois évidemment procéder à l'ensemble des relectures.
Og þá fer ég og leita af höfðinu mínu.
Et là, je me lance à la recherche de ma tête.
Og seta aftur á mig.
Je me la remets.
Og fer að vinna í og reyna að koma skipulega á þessa blóðugu óreiðu.
Et là, donc, pendant la relecture, j'essaie de mettre, d'imposer une organisation à ce chaos sanguinolent qu'est cette écriture.
Pour qui n'a pas lu encore les romans de Jon Kallman, comme vous pouvez l'entendre, le rire et l'humour sont également très présents chez lui. Les scènes que vous venez de décrire, Jon Kallman avec la poule, hein, me font penser à l'un des leitmotifs de cette trilogie. Vous écrivez dans, je crois, Le cœur de l'homme, écrire est une guerre. Hein. Donc on l'entend dans ce que vous venez de dire, hein, au sens où l'écrivain se bat avec les mots ou avec la langue. Est-ce que, par ailleurs, cette phrase s'entend aussi comme la manière dont la littérature mène une guerre dans ce monde ? Je ne sais pas si ma question est claire, je veux dire, est-ce que la littérature vous engage, voilà, vous engage d'une manière, quel est l'engagement qu'implique le fait que vous écriviez dans ce monde ?
Ef maður hefur eitthvað hæfileika, þá var náttúrulega á maður að nota hann í eitthvað.
Quand on a des capacités, il faut bien qu'on les utilise.
Það að segja, maður á að reyna að bæta heiminn.
En d'autres termes, il faut essayer d'améliorer le monde.
Því það er mikil þörf á því og hefur alltaf verið.
Parce qu'il y en a quand même sacrément besoin, mais ça, c'est pas nouveau.
Við erum með mjög ófullkominn guð og ófullkomna stjórnmálamenn, þannig að við verðum eitthvað að gera í því.
On a un dieu qui est très imparfait et on a aussi des politiciens qui sont très imparfaits.
Ég veit að það er svolítið barnalegt að trúa því að skáldskapur geti breytt heiminum.
Alors je sais, c'est très puéril de s'imaginer que la poésie et l'écriture peuvent transformer le monde.
En stundum bara á maður að gefa skít í það sem er skynsamlegt.
Mais il faut parfois se foutre de la raison et du raisonnable.
Og því ef maður reynir ekki af alefli að þá hefur maður ekki lifað nógsamlega.
Si on n'essaie pas toutes ses forces justement de se battre pour améliorer le monde, pour rendre le monde meilleur, alors après, on peut dire qu'on n'a pas, on s'est pas suffisamment battu pour vivre bien et pour faire le maximum de ce qu'on pouvait faire.
En það er svolítið snúið að skrifa skáldskap.
Snúið hvernig?
Flókið.
Cela dit, écrire de la littérature, enfin écrire, c'est quelque chose d'assez complexe.
Eða, og mörguleiti mótsagnakennt.
Et c'est aussi paradoxal.
Af því að það eina sem hefur sem skáldskapahöfundur, til dæmis, að það er annars vegar skáldskaparformið og hins vegar orðin.
En tant qu'auteur, qu'on soit poète ou romancier, les seules choses dont on dispose, ce sont les formes poétiques, romanesques et les mots.
En þetta tvennt er bæði í senn þinn einu vopn en og leið fangelsi þitt.
Et ces deux choses-là, formes et mots, sont à la fois nos armes et notre prison.
Í þeim skilningi að það er stöðugt, formið er stöðugt að í hættu að storkna.
Parce que la forme du roman est constamment menacée de...
Styrna.
Jú, þetta er bara franskan, sko. Vous savez, comme quand une bougie fond, de se figer, voilà, parce que la forme du roman est constamment menacée, risque constamment de se figer en quelque chose de mort. C'est clair, ça?
Oui.
Oui?
OK. Og orðin, náttúrulega það búið að vera notis orð í mörg þúsund ár, þannig að hættan að þau missi kraftin er stöðugt til staðar.
Quant aux mots, il y a tellement de centaines d'années qu'on les utilise, hein. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils risquent de perdre leur sens.
Þannig að þú ert reynir stöðugt, að þú verður stöðugt að reyna að endurnýja formið, finna nýja leið til þess að segja frá.
Et c'est pour ça qu'en tant qu'écrivain, pour moi, il faut constamment essayer de renouveler la forme et de trouver d'autres modes, d'autres manières de dire et de raconter.
Ef þú gerir það ekki, þá deyr skáldsagan.
Si on ne le fait pas en tant qu'écrivain, alors l'écriture meurt.
Sem kannski ágætt því þá fara bara allir að lesa ljóð.
Ce qui est peut-être pas mal, si l'écriture romanesque meurt, parce que dans ce cas-là, tout le monde sera bien obligé de lire des poèmes.
Le poème qui fait précisément ça, c'est-à-dire qui recrée sans cesse... la langue et retrouve l'image à l'origine des mots. Alors, puisqu'on parle de ça, j'aurais bien aimé qu'on évoque un peu la traduction, d'autant que Jon Kallman, vous êtes également traducteur.
Hein.
C'est d'ailleurs quelque chose qui est présent dans le roman, puisque votre personnage principal, le gamin, apprend les langues et apprend aussi pour traduire, donc il traduit Dickens. Qu'est-ce que la traduction apporte à votre travail d'écrivain et de quelle langue traduisez-vous déjà, parce que je ne sais pas.
Hvers konar næring þar þú frá því að þýða?
Ég þýði úr skandinavísku málum og ensku aðeinslega.
Principalement, je traduis de l'anglais et des langues scandinaves.
Ég reyndar þýtti Paul Celan, reyndar úr þýsku. Paul Celan,
úr þýsku. En fait, j'ai traduit aussi Paul Celan, mais de l'allemand.
Ég reyndar skil ekki þýsku, en ég samt skil hana þegar ég les ljóð að einhverjum ástæðum.
Je comprends pas l'allemand, mais je le comprends quand je lis des poèmes.
Ég reyndar segja það mjög oft þegar ég svona að tala bókmyndir og ég ætla að segja það núna.
En fait, il y a une chose que je dis très souvent quand je parle de littérature et je vais la redire maintenant. Écoutez bien.
Að við leggjum aldrei of mikla áherslu á þýðendur.
C'est que on ne met jamais ou non, on ne reconnaît jamais suffisamment l'importance des traducteurs.
Af því að það bara einföld staðreynd að án þýðenda væri ekki til neinar heims bókmenntir.
Parce que sans les traducteurs, il n'y aurait pas de littérature mondiale.
Og því meira sem við þýðum, því meiri möguleikar eru á því að við skiljum heiminn betur.
Et plus on traduit, plus on augmente nos chances de mieux comprendre le monde.
Í Bandaríkjunum þá eru 1,5% þeirra bóka sem koma út eru þýddar.
Aux États-Unis par exemple, 1,5% des livres publiés sont des traductions.
Myndu við segja að Bandaríkjamenn væru víðsýn þjóð?
Ha.
Myndu við segja að Bandaríkjamenn væru víðsýn þjóð?
Dirions-nous que les Américains sont des gens qui ont l'esprit ouvert?
Einmitt, ekki.
Pas vraiment.
Sem er alvarlegt því að þetta er heimsveldið.
Ce qui est très très grave parce que c'est quand même une puissance mondiale, c'est un empire mondial.
Það sem þeir gera og hugsa, það hefur áhrif á okkur.
Ce qu'ils font et ce qu'ils pensent nous influence directement, rejaillit directement sur nous.
Þannig að ímyndu ykkur hvað heimurinn væri hugsanlega betri staður ef að George Bush hefði lesið, hefði þekkt arabíska bókmyndir þegar að það var flogið á tvíbura turnana.
Imaginez à quel point le monde serait sans doute bien meilleur si au moment de l'attaque des deux tours du World Trade Center, George Bush avait été un fin connaisseur des littératures arabes.
Þá hefði hann átt að segja á því að arabar eru bara eins og bandaríkjamenn að þeir vilja bara lifa sínu lífi og kyssast og borða og vera til.
Il aurait compris alors, en lisant ces littératures, que les Arabes sont comme les Américains. Ce sont des gens normaux qui veulent juste manger, vivre, embrasser.
Þannig að það er aldrei að vita nema þráttur allt að bókmyndir geti bjarga heiminum.
Donc peut-être, sait-on jamais, que la littérature a effectivement, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, le pouvoir de sauver le monde.
En hvað mig varðar, þá finnst mér bara að ef ég lesa eitthvað sem ég heillast af, að þá finnst mér að skylda mín að komað yfir á íslenskt tungumál.
En ce qui me concerne, quand je lis quelque chose qui me plaît énormément, j'ai toujours l'impression que c'est un peu mon devoir de le rendre accessible en islandais, en langue islandaise.
Og það er líka bara, og þessu utan þá hjálpar að mér að kynnast íslensku tungumáli betur.
Quand je traduis, ça m'aide à mieux connaître ma propre langue.
Og komast dýpra inn í þann skáldskap sem ég hef heillast af, að ná að skilja hann betur.
Erlendanda.
Já, þann sem ég er að þýra.
Et aussi à mieux comprendre la poésie étrangère que j'ai lue et qui m'a plu ou fasciné au point de me donner l'envie de la traduire.
En leið kynnist maður náttúrulega þessari örvæntingu sem að verður til þegar þú ert að færa skáldskap á milli tungumála, allt það sem að glatast.
Et en même temps, quand on traduit, il y a aussi le désespoir du traducteur qui est de constater les choses qu'il ne réussira jamais à transmettre tout à fait, parce qu'il y a toujours des choses qui se perdent.
En þú kynnist líka ævintýrinu sem verður til að því að í stað þessum glatast þá verður einhvað nýtt til.
Mais ce désespoir-là est amplement compensé par le fait que toutes ces pertes sont justement compensées par des ajouts et des choses qui sont gagnées dans le texte cible et par la création d'un nouvel objet, d'une nouvelle œuvre. Je ne pourrais pas être plus d'accord, je peux signer. Je peux signer en bas de la feuille, s'il écrit ça, je suis complètement d'accord. C'est exactement pareil.
Justement,
toute la ligne.
Eric, moi j'aurais bien aimé que vous nous parliez un peu de traduction, ça vous permettra à tous les deux de vous reposer, puisque vous n'allez peut-être pas parler en français, puis vous traduire vous-même auprès de Jan Kalman. On a également un moment de lecture qui va clore, non pas l'entretien, mais mes propres questions, et puis vous aurez l'occasion vous-même de poser des questions et de converser un petit moment avec Jan Kalman. Donc je voulais vous demander, Eric, vous avez évoqué dans les précédentes rencontres le fait que la langue islandaise était très différente de la langue française par son côté concret et que l'abstraction était difficile à traduire en islandais. Alors vous ne traduisez pas en islandais, mais néanmoins vous avez rencontré peut-être des difficultés spécifiques à cette différence de langue, à cette différence de réalité aussi, puisqu'il y a des réalités en Islande qui n'existent pas en France et que par conséquent la langue française, j'imagine, ne nomme pas, ne sait pas nommer. Et puis il y a aussi le style et l'univers de Jan Kalman qui est spécifique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous traduisez, vous ne traduisez pas que de l'islandais, si je ne me trompe, vous avez affaire non seulement à des langues différentes, mais à une langue d'auteur différente. Est-ce que vous pouvez un peu évoquer ce qui s'est passé avec, très librement comme ça, avec la traduction de Jan Kalman ?
Très librement. Je ne le connaissais pas. Des amis à moi en Islande m'avaient dit « il faut absolument que tu lises Jan Kalman », des amis très proches. Il avait dit, tu dois lire Jan Kalman, tu vas adorer ses livres. Je n'avais pas le temps parce que j'étais occupé à traduire d'autres choses tout le temps. Voilà. Et puis un jour, l'éditeur français, Jean Materne, de chez Gallimard, avait lu le livre en allemand parce qu'il avait été... Les Allemands, ils traduisent tout. Ça, c'est très, très bien pour l'édition française parce que les éditeurs qui lisent l'allemand peuvent lire de l'islandais à travers l'allemand et ensuite, voilà. Et donc, Jean Materne avait acheté les droits de ce livre-là. Il me l'a envoyé. En me disant, est-ce que ça t'intéresse ? J'ai lu ça, en fait. Deux pages, et puis bon, je me suis dit, quand même, tu vas lire deux, trois pages, quand même. Ce qu'on vous a lu là, tout à l'heure. Et j'ai rappelé Jean le jour même, en fait, après avoir lu un peu. Et je lui ai dit, oui, c'est bon, je le prends. Il m'a dit, mais tu m'avais dit que tu n'avais pas le temps. Je dis, ah, mais si, j'ai le temps. Il m'a dit, mais tu as cinq livres qui t'attendent. Je dis, mais j'ai le temps, je vais le trouver. Et quand j'ai commencé à le traduire, alors il y a tout ce que dit Elsa, c'est pareil, évidemment l'islandais est très éloigné du français, la structure des phrases n'est pas la même, la structure de la pensée n'est pas la même, il y a des tas de mots qui existent en islandais qui n'existent pas en français et vice versa. Si vous parlez d'un châtaignier à un islandais, kastanjutrie. Un châtaignier, en Islande, à un Français, il sait ce que c'est qu'un châtaignier. Parce qu'il a mangé des châtaignes, parce que sa grand-mère lui a fait de la soupe aux châtaignes avec du lait, etc. Un Islandais ne sait pas ce que c'est qu'un châtaignier. D'ailleurs, le mot châtaignier est formé sur un mot danois à laisser arbre à châtaigne. Comme si nous, on nous disait arbre à billets. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne veut rien dire pour un Islandais. Donc en Islandais, il y a des tas de choses qui ne veulent rien dire pour un Français. Pour un Français, et on est obligé de transformer quoi. Par exemple, dès la première très très rapidement dans le livre, oui, il est question du village de pêcheurs ou du campement de pêcheurs. Il y a un mot en islandais qui est très spécial, c'est verbúð, c'est-à-dire des habitations en dur, donc permanentes, mais qui ne servent que pendant la saison de pêche, c'est-à-dire le printemps, la fin de l'hiver, le printemps. Et ça, c'est verbúð en islandais. Comment vous appelez ça ? Campement de pêcheurs, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. C'est pas un campement, mais c'est un campement. C'est un campement en dur. Parce qu'en Islande, vous ne faites pas du camping en avril. Hein. Faut pas être complètement dingue. Ni maso. Donc, on ne peut pas trouver mieux. Il y a des tas de choses comme ça. Quoi. Quelquefois, dans la traduction, on est obligé de garder des mots islandais. Quand il s'agit de nourriture, par exemple, en fait, on joue toujours avec la capacité du lecteur à inférer, à comprendre ce qui est écrit entre les lignes. Il y a des choses qu'on perd, mais on se dit de toute façon, le lecteur va comprendre. Parce que si ce n'est pas ici, on va pouvoir rajouter un petit détail ici, puis un petit détail là, et le lecteur va reconstruire cette réalité qui va ressembler beaucoup à la réalité islandaise. Ça, c'était le problème principal. Maintenant, pour le style de Jón Kalman, qui est très très particulier, enfin ceux qui ont lu le savent, hein. Toutes ces virgules, ces phrases très longues, ces couches de réel qui se mélangent, qui sont effectivement du domaine aussi du réalisme magique, oui, d'une certaine manière, je suis tout à fait d'accord. Quand on traduit, hein. C'est comme dit Jón Kalman, quand on écrit, et il y a un moment où, si on traduit de façon névrotique, comme moi, névrotique, c'est-à-dire 12 heures par jour, hein, et on est tout le temps devant le texte. Il y a un moment où il se produit un truc qu'on ne comprend plus. On sait ce qu'on fait, hein. On n'a pas la bouteille de whisky à côté de soi, c'est pas ça. On sait exactement ce qu'on fait, mais ou plutôt, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, mais on sait pourquoi on le fait. Comme quand on ramasse des patates dans un champ ou qu'on change son bébé ou que voilà, on sait comment faire et puis on se dit, après on relit à haute voix, on se dit est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Avec Jón Kalman, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça fonctionnait tout de suite. Le début, quand j'ai relu le texte à haute voix à ma femme et à mon fils, hein, qui était en pleine crise d'adolescence à l'époque, et donc, bon, crise d'adolescence, hein, ça veut dire que les fils adorent leur père à cette époque-là, d'un seul coup, j'ai eu mon adolescent de 17 ans qui me dit oh, « Mais c'est quoi ça ?» Je dis « Bah ça, c'est le livre que je traduis. Oh, »« Ah non, mais c'est génial hein. !» Bon, ça voulait dire que mon fils a bon goût, mais surtout, ça voulait dire que ça fonctionnait. Et pour moi, c'était un choc de traduire... De traduire entre ciel et terre, c'était un vrai choc émotionnel, esthétique, littéraire. Ouais.
Ce que vous dites là, Eric, rappelle ce qu'a dit Jón Kalman hein, sur l'écriture.
Hein.
Je dis ça rappelle ce que vous venez de dire, enfin ce que tu viens de dire, hein. Ce qu'a dit Jón Kalman tout à l'heure sur l'écriture. C'est-à-dire que tu manifestement, quand tu as traduit entre ciel et terre, tu étais dans une position d'écriture pure, j'allais dire, où à un moment les choses se font sans que tu sans que la part de volonté intervienne de manière majoritaire, en tout cas.
Energía helvítið, þá varstu líka að skrifa einna, sko. Uh-huh. Það, þetta gerist bara næstum því sjálfra. Uh-huh. Þú veist hvernig í vin, svona 12. morgadag. Og það varður bara hrynjandi eitthvað.
Du point de vue musical, sonore, c'est tellement différent, on l'a entendu tout à l'heure. Est-ce que tu as tenté de reproduire quelque chose ou...
C'est impossible, si vous voulez. Si on lit... Bárður hafði verið síðastur út. Si je le dis en berrichon. Bárður était bien sorti en dernier. Peut-être qu'en berrichon ça marche, mais en français non. Bárður fut le dernier à sortir, ou était le dernier à sortir. En berrichon, ouais, si, mais vous n'êtes pas berrichon.
Eh bien, c'est à Málisku, þá verkara. Málisku frá
heimaskur.
Við erum með R líka.
Mais en français standard, non. Hein. Vous, vous lisez peut-être pas comme ça, hein, quand vous lisez en français, vous dites pas « Ils ont posé toutes les lignes et l'attente prend le relais. La longue attente pour que le poisson morde. » On lit pas ça comme ça. Non. Vous lisez pas comme ça. Non. Moi, c'est la musique que j'entends en français quand même, quand je le lis un peu, partiellement.
On va vous entendre un petit peu encore, vous avez le courage ?
Yo.
Ah.
Get to work.
Já.
Já, þú byrjar, ok, byttu. Já, þeir hamast. Ok, og þú...
Kæla.
Já, já.
On va se refaire ce petit plaisir. Et ça vous a plu tout à l'heure?
Þeir hamast. Lemja snjó og frost af bátnum, þeir reyna að lemja dauðan frá sér og þurfa að beita öllu sínu afli og það, ekki, og það alls ekki víst að það dugi. Ástand Bárðar minkar líkurnar en það væri dauðadómur yfir þeim öllum ef einhver þeirra lánaði stakkinn sinn, þó ekki nema stundakorn. Þá eru þið tveir óvinnufærir en ekki einn. Stakklaus maður renn blotnar á örskömmum tíma, kuldinn er tangarhaldi á honum og sleppir ekki aftur, ekki hérna, út í opnu hafinu.
Il lutte, frappe la barque de toutes parts pour la libérer de la neige et de la glace. Ils essaient de cogner la mort afin de la faire fuir. Ils doivent recourir à l'ensemble de leurs forces et il n'est pas assuré que cela suffise. L'état de Bárður réduit leurs chances, mais ils seraient tous condamnés à une mort certaine si l'un d'eux venait à lui prêter sa vareuse, ne serait-ce que l'espace d'un instant. Dans ce cas, ils seraient deux et non plus un seul à être hors d'état de travailler. Un homme sans vareuse se retrouve ruisselant en un temps infime. Le froid s'empare de lui comme un étau et ne le lâche plus, en tout cas pas ici, en pleine mer. Essaie de te secouer, crie le gamin à Bárður qui tapote, impuissant, la neige et le gel qui couvrent la voile au-dessus de lui. Bientôt, il renonce et regarde son ami. On dirait presque qu'il sourit. Il s'approche, si près qu'il n'y a entre eux que quelques centimètres. L'un est pâle et épuisé par le mal de mer, l'autre tout bleu de froid. Bárður approche sa tête jusqu'à toucher celle du gamin. Ses yeux marrons sont emplis d'un message qu'il ne saisit pas, sa bouche se contracte. Il s'efforce d'articuler des mots, de triompher du froid, et il y parvient. Les mots arrivent, certes déformés, mais compréhensibles pour celui qui connaît leur origine, et le gamin la connaît. Douce, et la brise matinale, douce, l'arrivée du jour, la suivent les notes mélodieuses des oiseaux tôt levés qui l'oreille enchantent. Le gamin essaie de sourire à travers le mal de mer et le froid, à travers la peur. Bárður s'approche encore un peu plus. Les bords de leur suroît se relèvent, leur front se touche. Nulle chose ne met plaisir en dehors de toi. Murmure Bárður, c'est le vers qu'il a écrit hier soir dans la lettre adressée à Sigridur, qui se tient peut-être en ce moment au-dessus de la baratte, quelque part dans la campagne, quelque part au-delà de cette tempête, pour peu qu'il existe autre chose que ce vent, cette barque fragile et cette averse de neige que la bise déchire et leur jette au visage. Le gamin continue de taper le givre qui couvre la barque et la voile, son souffle est plus léger. La certitude que Bárður ne se laissera pas vaincre par le froid décuple ses forces, douce est la brise matinale. Et l'espace de quelques instants, il oublie tout, à l'exception de la lutte qu'il livre contre le givre et la neige, la lutte pour la vie. Mais quand il jette à nouveau un regard sur le côté, il constate que Bárður a rampé vers l'arrière de la barque, au fond de laquelle il s'est couché. Le gamin titube. Il rampe presque, pousse Einar sur le côté afin de rejoindre son ami. Einar lui hurle dans l'oreille, « Tu veux que nous mourions tous, espèce de petit crétin ?» Car celui qui abandonne son poste met tout le monde en péril. Et voilà, Bárður est couché là. Il a remonté ses genoux jusqu'à sa poitrine et les a enserrés de ses bras. Le gamin se baisse vers lui et hurle, « Bárður !» Il crie le nom qui compte plus que tous les noms du monde, plus qu'une barque chargée de 200 poissons. Il s'approche tant que son haleine effleure les yeux sombres. Bárður lui renvoie son regard. Son visage est inexpressif car le froid paralyse ses muscles, pourtant il le regarde. Quelqu'un saisit le gamin par le col, c'est Einar qui le tire d'un coup sec. Les yeux du gamin balaient la barque, Pétur et Orné leur crient quelque chose. Mais il n'entend rien. On n'entend rien d'autre que le hurlement du vent. Le gamin regarde Einar, puis le frappe avec une violence glaciale, droit sur la pommette. Einar recule face au coup et tout autant face à cette violence qui lui rend le gamin méconnaissable. Il se remet à genoux, arrache sa vareuse, tente en vain d'en revêtir Bárður, lui frictionne le visage, lui frappe les épaules, réchauffe ses yeux de son haleine, car c'est là que réside la vie. Il appelle. Il frappe encore, il frictionne plus fort, mais rien n'y fait, c'est inutile. Bárður a cessé de voir, ses yeux n'ont plus aucune expression. Le gamin a enlevé ses moufles, il frotte le visage glacé de son ami, le fixe dans les yeux, lui dit quelque chose, lui caresse les joues, les frappe, hurle et attend un instant, murmure, mais rien ne se produit. Le lien qui les unissait s'est rompu, le froid a placé Bárður sous son emprise. Le gamin jette un œil en arrière sur les quatre hommes qui luttent pour avoir la vie sauve, unis dans la bataille. Il regarde à nouveau Bárður tout seul, plus personne ne l'atteint. En dehors du froid, nulle chose ne met plaisir en dehors de toi.